c'est l'heure.
Je croyais vous avoir dit à tous que je voulais le silence radio.
Live de Québec.
Je n'ai pas reçu ce message.
Dans ton app, dans ta radio, c'est Marceau.
Marceau le midi.
Salutations, bon lundi. Mon nom c'est Marceau, son nom à elle c'est Pascal CV. Salut Pascal.
Hello.
Gros week-end.
Énorme week-end, honnêtement, c'est là je commence à être en week-end.
T'es heureuse, le football a commencé.
Heureuse jusqu'à temps que mon équipe se fasse.
Ça a pas bien été. Hein?
C'est épouvantable, mais c'est gênant. Les Pats ne sont plus les Pats que l'on connaît. Donc ça va être une superbe saison, vraiment, vraiment contente, honnêtement, super. C'est tout ce que j'avais à dire.
Mis à part ça.
Mais ça va vraiment bien. Beau week-end. Ouais. C'était le Ribfest pour une fondation que j'apprécie en fin de semaine. Ça a vraiment bien été. C'était le fun. J'étais devenue barmaid d'un jour. Donc, je pense que j'en ai échappé un peu. Ça, pendant 10 ans, je fais de la radio. puis j'avais oublié comment on faisait des drinks, là, ouais. Je crois. Là,
mettons un gin tonic, c'était compliqué.
Écoute, ça dépend à quelle heure dont je les fasse. Mais ça, là, j'avais oublié à quel point ça peut être tannant. Quand tu es derrière un bar, tu sais, j'ai fait ça dans le temps, mais je prenais des shots d'eau, des trucs comme ça. Mais à chaque fois que quelqu'un vient te voir, tu te dis, hey, on prend des shots ensemble.
Ouais.
À un moment donné, là, faut être tes trucs.
Ben
parce
oui.
Que les gens le prennent mal si tu refuses. Mais toi, tu pourrais le prendre mal en acceptant aussi.
Sais-tu
là.
Qu'est-ce que je faisais, moi? J'avais mes shooters qui étaient préparés en dessous du comptoir. Fait que quand je préparais mes trucs,
ouais.
Je mettais leur shooter à eux. Puis là, je prenais mon shooter dans ma main. Puis je cachais ce que j'avais dans la main. Puis je le buvais. Puis ils voyaient rien, c'était de l'eau.
On avait le même truc. Quand je travaillais dans un relais de motoneige, ça brassait, là, puis c'était mon truc aussi, sauf que tu peux pas faire semblant en le pitchant en arrière, ça fonctionne pas pour ceux qui veulent des trucs.
On a un chroniqueur Rouge et Or aujourd'hui.
Oui, différent d'habituellement.
Ouais, un gars qui était au Rouge et Or en fin de semaine, Montréal, qui s'amenait contre notre Rouge et Or. Toute une finale. Donc, le chef du Parti conservateur du Québec a dit, ben c'est moi le chroniqueur Rouge et Or aujourd'hui. Salut Éric Duhem.
Salut Yannick.
Très content de te voir.
Ben, t'as
assisté au match?
Oui, c'était, écoute, le tailgate aussi, évidemment, parce que pour un bon match de football avec du Rouge et Or, s'il n'y a pas de tailgate, t'es pas allé vraiment au match de football.
Il était au shooter, lui aussi.
Ça a fini qu'il a été botté de 53 pieds, quand même.
53 verges. Écoute, 53 verges, c'est un record. Hein. Il y avait record de foule, record pour le botté de placement.
Ouais.
Ça a été vraiment... là, ça s'est fini là, en quelques secondes. C'est le botté qui a fait la différence.
Ah, il paraît que c'était toute une finale.
C'est le fun parce que tu sais le Rouge et Or a toujours été favorisé. J'ai l'impression que depuis qu'on est au monde, que le Rouge et Or gagne, t'sais, c'est comme... c'est une dynastie. Là. Glenn Constantin a été établi à Québec, là, quelque chose de une forteresse. Là. Mais c'est plus le cas. L'équipe était négligée là, en fin de semaine. Fait que c'est ça qui est d'autant plus. Les Carabins, ils ont une méchante bonne équipe.
Surtout contre les Carabins. T'sais, auparavant, là, les gens suivaient un peu le cursus du football pour se rendre au Rouge et Or. Peu importe en quoi ils allaient appliquer, ils allaient arriver au Rouge et Or. Ça a beaucoup changé. Avec des Laurent Duvernay-Tardy, avec McGill, avec les jeunes maintenant, se concentrent sur leur choix d'études et ensuite commettent avec une équipe de foot.
Fait
et
c'est ça plus difficile pour Laval.
Ouais, ça a beaucoup augmenté
fait que
le
ça fait
challenge.
Que le défi est encore plus grand, mais le fait qu'ils ont gagné, le batteur s'appelle Philippe Forteza. Je vais le dire parce que je veux vraiment, là, c'est un héros. Là.
Un nom de rockstar.
C'est un héros!
Ouais. Mais c'est un héros. Il a fait gagner son club. On appelle ça un héros,
c'est
non?
C'est un héros!
Sais-tu qu'est-ce qu'il a dit au journaliste de Radio-Canada?
Merci.
Il dit, moi, une fois que le ballon quitte mon pied, c'est Dieu qui décide.
Mais c'est vrai.
Mais c'est souvent que tu fais...
À grâce de Dieu.
Ouais.
C'est Dieu qui décide.
Mais beau match, belle température. Les gens étaient
faisait
présents.
Beau, faisait...
Ça m'a rendu jalouse.
Un peu. Mais t'aurais dû venir.
Bien, la prochaine fois, je peux pas tout faire. Okay. Je peux pas.
Mais faut que tu viennes au tailgate aussi.
Éric Duhem.
On va aller au tailgate ensemble.
Éric, arrête
Pascal,
les rumeurs.
On va du fun.
En parlant politique.
T'es-tu dynamisé par le nouveau sondage qui vient de sortir? C'est le sondage Palace, c'est
oui.
ça?
Oui. Bien, écoute, d'abord, les intentions de vote. C'est la première fois depuis l'élection du Québec, là, depuis octobre 2022, que le Parti conservateur est en avant de Québec solidaire. Je sais bien, vous allez me dire, là, c'est pas la fin du monde, Éric, vous êtes à 14 %, vous étiez à 13 aux dernières élections, mais c'est un miracle. On a défié la loi de la gravité. Là, on est plus haut avec aucun député, avec pas de budget de recherche puis de communication comme les autres partis qui reçoivent des millions par année, avec 1 % de la visibilité des médias traditionnels. Puis on réussit à battre le parti chouchou des médias traditionnels. Je t'inclus pas là-dedans, Yannick. Là, mais
c'est qui ton c'est, parti chouchou?
Ben, c'est le parti chouchou. C'est sûr que c'est Québec solidaire. Là. Mais il y a des médias qui accordent 17 fois plus de couverture à Québec solidaire qu'au Parti conservateur du Québec.
Oui, puis tu sais, je regardais les experts de Montréal qui parlent de politique. Puis après la pandémie, les gens prédisaient que tu allais tomber.
Il disait qu'on allait disparaître.
Il y a eu une blague
sur
toi.
On était le parti d'une seule cause. Qui a fait une blague?
La semaine passée, il y a eu une blague sur toi. Quelle est la différence entre le Parti conservateur du Québec et une toilette?
Il y a, la toilette, elle a un siège.
C'est ça, oui. Il y a quelqu'un qui t'a l'envoyé.
Mon Dieu, qu'elle n'est pas prévisible, celle-là.
Mais ça, ça fait jaser pareil, c'est vrai. Là, oui. Tu dis, vous êtes présent, même si vous n'avez pas de siège, vous n'êtes pas élu à l'Assemblée nationale malgré tout, vous travaillez fort d'un coin. Tu parles un peu de la visibilité que les autres partis peuvent avoir face à toi et ton parti. Quand même, Éric, depuis que tu es à la tête du Parti conservateur, tu en as eu beaucoup de visibilité malgré
bien,
tout?
Pas pourquoi qu'on a de la visibilité. Tu sais, la dernière fois que je suis venu ici, je suis venu vous parler de mon char, mon choix, là. Depuis que je suis venu en studio la dernière fois, il y a 30 000 personnes qui ont été sur le site Mon char, mon choix, ce qui fait que c'est la pétition là, de toutes les pétitions, même celle présentée à l'Assemblée nationale dans la dernière année, là, qui a eu le plus de signatures. Okay? Parce qu'on est sur un enjeu, la vente, l'interdiction de la vente des véhicules hybrides puis à essence qui atteignent du monde, que ça préoccupe les gens. Puis d'ailleurs, dans le sondage, là, il parle pas juste des intentions de vote, on l'avait pas commandé pour les intentions de vote, là, on l'avait commandé pour savoir ce que les Québécois pensent de ça. Il y a 60 % des Québécois qui sont contre la législation du gouvernement Legault, 30 % pour. Et on a quatre partis à l'Assemblée nationale, 125 députés sur 125 qui sont pour, qui sont avec le 30 % puis il n'y a pas une seule voix qui représente le 60 %
C'est
pour ça qu'on a un peu de visibilité, parce qu'on se fait la voix de ceux qui n'en ont pas, parce que les partis n'écoutent plus la population. Puis je pourrais parler du tramway, je pourrais vous parler du troisième lien, je pourrais vous parler des baisses de taxes et d'impôts, je pourrais vous parler du déficit zéro, je pourrais vous parler du privé en santé.
Là, tu étais à la manif du tramway, hier.
À peu près tous ces enjeux-là, il n'y a personne qui parle pour la majorité silencieuse. Et c'est ça qui est le gros problème à l'heure actuelle. Écoutez, juste pour vous donner une idée, là, c'est un règlement. La question qu'on a posée dans le sondage, je vais vous la dire textuelle. Êtes-vous favorable au règlement du gouvernement Legault sur l'interdiction de la vente des véhicules hybrides et à essence d'ici 2035? Les caquistes, les électeurs au général, c'est 60. Les caquistes, 63 % contre, 27 % pour. Donc, les caquistes sont plus contre que l'ensemble de la population. En fait, il y a juste un parti qui est pour, que les sympathisants sont pour, c'est Québec solidaire.
Québec solidaire.
C'est fou. Ils ont adopté des politiques de Québec solidaire. Ils sont 125 sur 125 avec le perroquet de Gabriel Nadeau-Dubois.
Mais
c'est
de
pas
plus
des
en
farces.
Plus, Éric, les gens sont en train de se réveiller. Là. Je pense que Mario Dumont a décongelé.
Oui.
Là, en fin de semaine, dans le journal, il a dit que
ça
c'était,
avait pas d'allure.
C'était un rêve, 2035. Là. Ça n'a pas de bon sens. Il n'y a rien de concret pour la date de 2035. Quand on parle avec les concessionnaires, ils disent ben oubliez ça, là, on ne serait même pas capable de racheter votre véhicule à essence. On n'aurait pas le droit techniquement d'acheter votre véhicule à essence pour vendre un véhicule électrique. Donc, même les concessionnaires comprennent rien. Et ça, c'est sans compter les électriciens qui disent « Oubliez ça, électrifiez le Québec pour que tous les véhicules puissent être sur la charge la nuit. » C'est impensable. Il y a des gens en ville qui ont des véhicules qui stationnent dans les rues. Ils vont se borner où, eux autres-là?
Il n'y en a pas.
Ils n'auront pas de bornes.
Jamais.
C'est impossible, 2035. Puis moi, je regarde les entreprises comme Ford, Northvolt, tout ça, ils constatent actuellement qu'il y a une petite demande un peu plus pour le hybride que pour le véhicule totalement électrique. Les grandes entreprises de ce monde-là sont en train de se raviser en disant « On va peut-être un peu plus y aller vers l'hybride plutôt que dans le tout électrique. »
La semaine passée, Volvo a fait ça. Hein?
Oui.
Ils ont parti de l'hybride tout électrique, sont allés vers l'hybride. Puis d'ailleurs, on a demandé aux gens, dans 5 ans, là, votre renouvellement de votre véhicule, ça va être quoi votre prochain char?
Moi, c'est un hybride.
Ça va-tu être un char hybride, à essence ou électrique? Total du Québec, 19 % électrique, 30 % hybride, 33 % essence. Ça veut dire que c'est du 3 pour 1, là. Que c'est des voitures qui vont être interdites en 2035.
En sous-question, as-tu la valeur de ces voitures-là? J'ai l'impression qu'il y aurait peut-être un peu plus d'hybrides.
Un véhicule électrique, la moyenne du prix d'un véhicule électrique, c'est 79 000 $ présentement. Mais ce que je veux juste revenir là-dessus, là, la prochaine voiture, c'est d'ici 5 ans. En 2030, savez-vous c'est quoi le pourcentage qu'on va être obligé, le concessionnaire va être obligé de vendre des véhicules électriques? C'est 85 % alors que tu as les trois quarts qui veulent acheter un véhicule à essence ou hybride. Ça marche juste pas.
Et si le concessionnaire réussit pas à vendre son 85
% 20 000 de pénalité.
C'est des pénalités.
Mais c'est pas le concessionnaire qui va le payer. Il va te le charger, voyons donc.
Oui.
Fait que ça va passer à 99 000 au lieu de 79 000.
T'as pas l'impression que tu as déjà gagné ton point, Éric, là-dessus, sur ce dossier-là?
Mais non, ils ont pas reculé.
Non, mais en voyant les sondages, en voyant par rapport à ton sondage, les réponses de ça, les gens un petit peu plus mécontentes par rapport à la CAQ, t'as pas l'impression qu'ils vont avoir à reculer et qu'ils vont le faire de toute manière parce
mais
que même
je le souhaite.
Du côté infrastructure, ils sont pas prêts?
Demain, là, à l'Assemblée nationale, commence l'étude. Les travaux reprennent, puis commence l'étude du projet de loi 69. C'est le projet de loi de Fitzgibbon sur l'énergie. Là, il y a une nouvelle ministre, Mme Fréchette. On espère qu'elle va arriver avec une nouvelle vision, parce que la vision de Fitzgibbon en énergie, elle ne fonctionne pas. Demain, là, ils vont commencer à étudier un plan qui va coûter entre 155 et 185 milliards. Ça, là, mettez des zéros jusqu'à temps que vous ayez mal au bras, là, c'est ça que ça représente. Là. 185 milliards de dollars de dépenses. Et là, c'est pour ça qu'ils disent on va doubler. Tu sais, Fitzgibbon avait dit on va doubler les tarifs d'Hydro-Québec. Parce qu'il faut qu'il aille chercher l'argent quelque part. Là, M. Legault, il dit non, les particuliers, les résidentiels, on ne touchera pas à ça. On va juste attaquer les entreprises et les industries. Pareil comme si ils chargent à l'entreprise, ils ne vont pas nous recharger à nous autres. Les entreprises vont toutes se mettre à perdre de l'argent puis les commerces vont perdre de l'argent parce qu'ils vont payer plus d'hydro puis les consommateurs ne verront pas en couleur de ça. Voyons donc, il va falloir qu'il aille chercher l'argent quelque part. Puis moi, c'est là que je ne suis pas d'accord. Si on veut effectivement électrifier, puis si on veut avoir une pensée verte, il faut être rationnel, il faut être pragmatique. Il faut exploiter notre gaz naturel. Le pays le plus avancé en termes d'électrification de ses transports au monde, c'est la Norvège. Comment ils ont fait ça? Ils ont exploité leur pétrole, parce qu'eux autres, ils ont du pétrole. C'est pas du gaz naturel comme nous, c'est encore plus polluant. Et c'est avec ça qu'ils ont financé la transition. Nous, là, comment on va financer le 185 milliards? On a 250 milliards de dollars de gaz naturel en dessous de nos pieds. On a la plus grosse réserve de gaz naturel non exploité au monde, ici. On a la chance d'avoir les deux pieds dessus. Pourquoi on n'exploite pas ça plutôt que de l'importer à 100% comme on fait présentement?
On préfère ne pas l'exploiter puis prendre l'argent du pétrole de l'Ouest pour pouvoir financer notre panier de services.
Mais même le pétrole de l'Ouest, il ne financera pas toute la transition. Ça coûte trop cher. On va en manquer. Même on va manquer d'argent de l'Ouest.
Non, mais ça dénote une certaine hypocrisie. On prend la péréquation, mais nous, on ne veut pas exploiter notre propre pétrole.
C'est une mentalité de la société sociale.
Le pétrole de l'Ouest, c'est du pétrole sale.
Mais c'est une mentalité de dépendance. Moi, j'aime pas ça. Je pense qu'au Québec, il faut être autonome. T'sais, l'autonomie, là, c'est pas de voter des référendums perdants tous les 10 ans. Là. L'autonomie, c'est de s'assurer que les Québécois sont capables de vivre selon leurs moyens. Puis ça commence par exploiter nos ressources qu'on a chez nous.
Éric Duhaime, Legault, dans sa conférence la semaine dernière avec Pierre Fitzgibbon, a dit que les taux, ça n'augmentera pas, Hydro-Québec. On parle d'un 3 % pour ce qui est du résidentiel, alors que Pierre Fitzgibbon, la semaine d'avant, avait dit non, c'est impossible.
Ça va doubler.
Là, ça va doubler. Puis si c'est pas triplé, parce qu'il faut que les gens payent la juste valeur. En même temps, c'est à nous autres, Hydro-Québec.
Oui.
C'est nous qui l'avons financé. Puis c'est pas mal tout ce qui nous reste. Là. Quand on regarde le fardeau fiscal des Canadiens, là, c'est nous qui payons le plus de taxes au Canada. Et là, on nous dit qu'il n'y aura plus d'avantages à vivre au Québec parce que même l'électricité va coûter à peu près ce que ça coûte ailleurs ou sinon peut-être même plus cher.
Peut-être même plus cher.
C'est tout ce qui nous reste, Éric, l'Hydro-Québec.
Là, on parle du résidentiel, parce qu'il a dit que les résidentiels allaient rester à 3 %, mais que les entreprises allaient payer beaucoup plus. Fait que ça va être des augmentations de 6, 7, 8, 10 % tous les ans. Les entreprises au Québec, là, ils payent déjà plus de taxes puis d'impôts qu'ailleurs. Puis on a déjà plus de règlements, puis on a un gouvernement qui est plus interventionniste puis qui les écœure plus. Un des rares avantages comparatifs qu'on a pour attirer des investisseurs au Québec, là, c'est notre hydroélectricité. Si on commence à surcharger l'électricité, imaginez l'impact économique. Ça, c'est des entreprises qui vont sacrer le camp ou des investissements qui ne se font pas ici. Là. Fait que c'est une vision à courte vue. Je comprends que M. Legault, il a les yeux fixés ses sondages puis pense aux prochaines élections puis il se dit « Je ne me ferai pas élire si je double les tarifs d'hydro avec des élections comme me le propose Fitzgibbon. Fait que je vais mettre Fitzgibbon dehors. » Parce que c'est ça, grosso modo, que c'est passé la semaine passée. Mm-hmm. Il faut se le dire. Là.
Il s'est fait démissionner.
Il s'est fait démissionner parce qu'il avait dit la vérité, dans le fond. Il avait dit qu'il faut aller chercher l'argent quelque part. Mais moi, je trouve que c'est une vision à très, très court terme. Il faut aider nos PME au Québec. Si on veut créer de la richesse, là, au lieu d'aider Northvolt puis de leur donner 7,1 milliards de dollars, pourquoi on n'aide pas nos PME, nos entrepreneurs qui, eux, créent de la richesse? Eux autres, il ne faut pas augmenter leur tarif d'hydro puis lui taper sa tête. Il faut trouver des moyens de baisser leur fardeau fiscal qui est déjà trop élevé. Puis ça, c'est la priorité. Moi, en tant que conservateur, là, c'est ça ma priorité.
Allez-vous en proposer? Parce que le moment où, pour moi, c'est une question de temps avant que la CAQ et François Legault, s'ils sont réélus, qu'ils laissent tomber ce projet-là, puis même peut-être même avant les élections, ou du moins cette date-là par rapport à leur projet. Est-ce que vous avez travaillé pour proposer autre chose? Parce que le jour où ça tombe, vous n'êtes plus en lutte contre,
en fait,
vous êtes dans une proposition.
On n'est pas dans... Parce que là, ils ont déjà le bras dedans. Là, juste pour rappeler aux gens, là, l'électrification puis la filière batterie, comment c'est un fiasco, là. Ils ont mis 40 millions dans Taïga pour faire des motoneiges électriques. Hein. Il y avait eu ça comme bonne idée. Des motoneiges plus pesantes qui font maximum 40 km. Ils pensaient qu'avec pas de borne dans le bois, ils pensaient que c'était une bonne idée, eux autres. Là, Taïga s'est placé à l'abri de ses créanciers cet été. Ça veut dire qu'ils sont en faillite technique. Là. Ensuite de ça, ils ont mis 200, presque 50 millions de dollars dans Lyon Électrique pour les bus électriques. La valeur de Lyon Électrique a baissé de 97 % dans les trois dernières années. Ils ont perdu 97 % de leur actif. Ça aussi, c'est une compagnie qu'on se demande qu'est-ce qui va arriver. Puis là, la dernière, c'est Northvolt. Northvolt, là, vous avez vu, ils ont fermé leurs installations en Californie. Ce matin, ils viennent d'annoncer qu'il y a des projets en Suède qui n'auront pas lieu. Puis au Québec, on se pose des grosses questions. Ça, c'est 7,1 milliards de dollars d'argent public. il faut abandonner. C'est pas le rôle du gouvernement. C'est ça la proposition conservatrice pour répondre à ta question plus précisément.
Ouais,
là. Le rôle du gouvernement, ce n'est pas de choisir des gagnants puis des perdants puis de donner de l'argent des Québécois à des multinationales étrangères.
Mais travaillez-vous.
Le rôle du gouvernement, c'est de baisser les taxes et les impôts puis la paperasse des PME au Québec. Moi, je veux qu'on devienne la pépinière de PME au Québec. Je veux que l'exemple Beauceron, il soit à grandeur du Québec, puis que nos PME ont de l'intérêt à se développer, puis que le gouvernement ne décide pas à leur place. Il faut que le rôle du gouvernement, c'est d'en faire le moins possible, pas de commencer à distribuer des chèques puis jouer au Père Noël. Moi, il n'y en aura pas de Fitzgibbon dans mon gouvernement. Il n'y aura pas quelqu'un, un Père Noël, qui va se promener avec un chéquier. Là, ça n'existera pas. Là. Et j'espère que là, on a une nouvelle ministre, mais on va lui donner la chance. Elle vient d'arriver. Là. Elle commence demain à travailler ça pour vrai. Là.
Es-tu optimiste? Est-ce que tu vas la rencontrer?
Bien, écoute, oui, je ne sais pas. Je ne la connais pas. T'sais, j'ai vu ce qu'elle a fait, mais c'est une fille qui vient de l'immigration, qui avait été chef de cabinet au Parti québécois aux relations internationales. Fait qu'au niveau économique, je ne sais pas ce qu'elle a dans le ventre. Mais j'espère qu'elle va tourner la page sur les années Fitzgibbon, qu'elle n'est pas là juste pour être une plante verte puis faire ce que le cabinet du premier ministre dit. Là. J'espère qu'elle va arriver avec une nouvelle vision puis qu'elle va mettre de côté la filière batterie puis l'électrification de tout, comme Fitzgibbon l'avait fait. Parce que si on est obligé de dépenser autant d'argent avec Hydro-Québec, 185 milliards, c'est parce que la demande en électricité va augmenter de façon exponentielle. Pourquoi? Parce qu'on donne on vend notre électricité à rabais aux Américains, parce qu'on donne de l'électricité à des prix ridicules à des firmes comme Northvolt, puis parce qu'on oblige, le tiers, là, c'est juste pour obliger les gens à mettre leur véhicule à l'électrique. Fait qu'on est en train d'artificiellement monter la demande, puis les projets, les nouveaux projets de développement électrique au Québec coûtent beaucoup plus cher que les anciens. OK? Je ne veux pas rentrer dans les chiffres du kilowattheure, là, mais vous comprenez que ça coûte 2 à 3 fois plus cher quand on construit des nouvelles installations, que ce soit les éoliennes ou même des nouveaux barrages, que ce que ça coûtait à l'époque quand on a fait la baie James puis les grands projets. Et là, on va se ramasser qu'on n'aura plus les moyens. Là. Il faut trouver une façon de financer ce développement-là. Fait que pour nous autres, la solution, c'est pas compliqué. On réduit la filière électrique, la filière batterie, puis on donne des baisses d'impôts aux entreprises, puis on arrête d'aider les entreprises
mais
étrangères.
Mais pour l'électricité, bon, les barrages, il est un peu trop tard. Là. C'est 15 ans pour bâtir un barrage.
Trop tard.
Les éoliennes, ça vire pas tout le temps à ce qu'on nous dit. Là.
Ça coûte cher, ça brise, la survie n'est pas très longue.
Je le sais que tu vas me trouver tannant avec ça, puis je le sais que ça peut être inacceptable pour des gens qui connaissent pas le dossier, mais il reste à peu près actif, là. Il reste à peu près 19 réacteurs nucléaires au Canada qui fonctionne super bien, on n'entend pas parler. Nous, on a fermé Gentilly. Gentilly, c'est l'ancien nucléaire. Maintenant, le nouveau nucléaire est utilisé partout dans le monde, sur tous les continents. Est-ce qu'un jour, le Parti conservateur pourrait commencer à parler du nucléaire avec le nouveau nucléaire qui existe
d'abord,
et qui est la façon la plus environnementale de produire de l'électricité actuellement?
T'as raison, Yannick, sur objectivement. Puis il y a des pays qui empruntent cette voie-là. La France est un bel exemple. Même ici, l'Ontario est beaucoup dans le nucléaire. Le problème qu'on a avec le nucléaire, très honnêtement, c'est l'acceptabilité sociale. Parce qu'à cause de la réputation passée du nucléaire...
Ben, ils vont nous faire un tramway qu'ils l'ont pas, avec l'acceptabilité sociale. Le Northvolt, ils l'ont pas, l'acceptabilité sociale. Ils font pareil.
T'as raison, mais il y a une peur qui est associée au nucléaire. Mais moi, personnellement, là, je vais te parler comme chef du Parti conservateur du Québec. Moi, je suis pour une diversité des sources d'énergie. Moi, je pense qu'on est riche comme Québec, là, quand on met pas tous nos œufs dans le même panier. Et moi, c'est une des raisons qui me fait peur avec l'électricité. J'adore l'électricité, puis c'est extraordinaire le patrimoine qu'on a à ce niveau-là. Sauf qu'on ne peut pas mettre tous nos œufs dans ce panier-là.
Entièrement d'accord.
Puis, tu sais, tantôt, on parlait des voitures. Là. Qu'est-ce qui nous dit que ça ne sera pas des carburants synthétiques tout à l'heure qu'on va mettre dans nos voitures qui ne seront pas pollués?
Ça s'en vient.
Parce que les grands fabricants automobiles, là, ils pensent, en tout cas, pour avoir parlé à ben du monde de l'industrie ces dernières semaines, il y a beaucoup qui me disent que c'est ça la voie d'avenir. Après ça, il y a toute la filière d'hydrogène qu'on entend beaucoup parler aussi. Tu viens de parler du nucléaire. Moi, je t'ai parlé un peu plus tôt du gaz naturel. Moi, je pense qu'on a intérêt à multiplier les sources d'énergie. Un pays qui est riche, là, c'est un pays qui a beaucoup de sources énergétiques. Regardez la guerre en Europe présentement entre les Russes et l'Ukraine. Là. Vous allez voir que c'est une guerre aussi de ressources. Là. Et l'énergie est au cœur des préoccupations. Puis c'est quand tu as l'énergie, tu as la richesse à plusieurs égards, puis c'est très stratégique. Puis au Québec, malheureusement, on a choisi d'abandonner plusieurs filières, dont le nucléaire. Aujourd'hui, imagine si on avait gardé Gentilly. On aurait pu faire la transition dont tu parles.
Mm-hmm. Mais le nouveau nucléaire n'a rien à voir avec Gentilly. Là.
Non, ça, je sais, mais on aurait eu l'expertise parce qu'on aurait eu tous les ingénieurs, on aurait eu une filière, on aurait eu une grappe au niveau du savoir technologique. Ces gens-là auraient évolué avec la filière. Mais là, on a tout démantelé, puis ces gens-là se sont ramassés par pied dans toutes sortes d'autres secteurs.
En deux minutes, tes attentes par rapport à la nouvelle session parlementaire qui commence demain?
C'est pas compliqué. C'est que le gouvernement se met enfin à l'écoute de la population. Et c'est vrai dans à peu près tous les dossiers. On vient de parler des voitures électriques, mais je pense qu'il faut le faire aussi. Hier, on a parlé du tramway. Je pense qu'il faut le faire aussi avec le troisième lien. Il faut le faire avec la capacité de payer des contribuables. Samedi, j'étais dans le stationnement là, de Fleur-de-Lys, devant le Maxi. On travaillait pour la bouchée généreuse, pour ramasser des denrées. Ça a très bien été, merci.
C'est Jim qui était là-dedans,
c'était Jim qui a organisé ça avec les gens, les conservateurs de Vanier. Et il y a une personne sur dix, oubliez jamais ça, là. Puis s'il y a une chose que vous retenez de l'entrevue, retenez ça. Là. Il y a une personne sur dix dans la dernière année à Québec là, qui est obligée d'aller à une banque alimentaire pour se nourrir. Une sur dix. C'est un record de tous les temps. On n'a jamais vu ça, là.
Puis selon M. Gravel, c'est pas les plus pauvres.
Puis c'est pas du monde qui sont sur l'aide sociale puis sur le chômage, tout le monde. Là. Il y a des pères, des mères de famille qui travaillent. Mais il y avait le choix entre payer l'épicerie ou payer l'hypothèque ou payer l'auto qui leur permet d'aller travailler, de se rendre au travail le matin. Je veux dire, il y a des gens qui souffrent. L'inflation, ça l'a frappé du monde. Ça n'a pas frappé nos députés parce qu'ils ont eu 30 000 piastres d'augmentation de salaire chaque. Là. Mais il y a des gens pour qui 40, 50 piastres de plus sur le panier d'épicerie toutes les semaines, là, ça fait un gros, gros trou à la fin du mois dans leur budget. Puis à un moment donné, ils sont pris à gorge. Puis pendant que ces gens-là sont pris à gorge, nos gouvernements, qu'est-ce qu'ils font? Ils se demandent s'il faut qu'ils dépensent 150 milliards dans des projets d'énergie pour électrifier ou s'il faut qu'ils dépensent 15 milliards pour un tramway ou s'il faut qu'ils donnent 7 millions de dollars aux Kings de Los Angeles de venir jouer une game au Centre Vidéotron. Ils sont déconnectés.
Donc, pour ta rentrée, toi, c'est d'être Éric, avec à l'écoute du monde. Ça va être peut-être de resserrer les vis sur l'opposition face aux finances et aux enjeux de tout le monde.
Les gens en arrachent financièrement. Il faut que le gouvernement se serre la ceinture plutôt que de serrer la ceinture des citoyens et des contribuables. Je pense que c'est... On est là, puis on le sent, là, économiquement, ça ne va pas nécessairement aller mieux dans les prochains mois.
En terminant pour vrai, tu connais la radio, Éric?
Ben oui.
En terminant, Pascal Paradis, député de Jean Talon au PQ, s'en vient en studio tantôt. On parle de la rentrée parlementaire. T'as-tu une question pour lui? On va vraiment énoncer comme quoi c'est ta question, Éric Duhem.
Est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon, dans la création de son conseil des ministres, il a déjà promis une job de ministre? Parce que j'ai lu ce matin dans le journal qu'il est en train de distribuer des jobs pour qu'une fois qu'il va être au pouvoir, ils sont déjà dans une...
Je pourrais répondre.
Juste d'accepter de prendre la photo, là, c'est une erreur stratégique. Bon. C'est le genre d'affaires que tu fais en coulisses, d'habitude. Là.
Oui. Écoutez, et non, en même temps, ils sont pas beaucoup.
Non, mais je me demande, le PQ, sur quelle planète ils vivent? Je veux dire...
Deux ans.
Ils sont à plus que deux ans d'une élection. Lui, il est là, puis il dit qu'il commence à recruter des chefs de cabinet, puis essayer de voir s'il peut nommer des ministres. Il n'a pas gagné l'élection.
Mais il travaille en amont.
Il a perdu 5 points
sur
pendant...
Sur ce terme.
Ben, attends une minute, il a travaillé. Il n'a pas travaillé si fort que ça cet été. Il a perdu 5 points dans les sondages dans la période estivale.
Mais ça, puis... on pourrait dire que tu n'as pas de siège à l'Assemblée nationale, mais tu travailles fort.
Moi, mais je ne prépare pas mon conseil des ministres. Je ne promets pas des jobs à chef de cabinet. Tout le monde, je croise. Là. Puis la deuxième chose, c'est que ils sont en train de travailler sur un référendum. Puis s'il y en avait un aujourd'hui, là, il y a les deux tiers des Québécois qui voteraient contre.
Ça
c'est leur priorité numéro un. Puis leur priorité numéro deux, c'est de nommer du monde dans un gouvernement alors qu'ils ne sont même pas élus puis qu'on est à deux ans des élections. Si on voulait avoir un exemple de comment ils sont déconnectés, pourquoi à la place qu'ils ne se connectent pas sur le monde? Comment ça qu'ils n'étaient pas avec nous autres hier, M. Paradis, pour venir parler aux gens contre le tramway? Comment ça que sur le troisième lien, ils sont contre le 70 % de la population de Québec alors qu'il est un élu ici dans Jean Talon? Ça, c'est des questions auxquelles ils devraient se préoccuper pas mal plus que de nommer du monde chef de cabinet d'un peut-être gouvernement péquiste ou d'un peut-être référendum, troisième référendum perdant.
Mais c'est important d'avoir confiance en ses moyens, mais cette photo-là qui a accepté de prendre la photo, je trouve ça particulier parce que c'est le genre de photo qui peut y revenir d'en face dans deux ans. Là.
Mais plus que dans deux ans, d'après moi, dans deux jours, ça va être... D'après moi, la période des questions, demain, quand ils vont se lever, là, la CAQ va rire de lui, là, c'est écrit dans le ciel. Ils vont dire, puis à toutes les fois qu'il va nommer quelqu'un, ils vont dire, ah, c'est-tu quelqu'un que vous allez nommer dans votre prochain conseil des ministres? Il a vous promis une job de chef de cabinet, celui-là. Il est déjà en train de faire ça. Ça, c'est le genre d'affaires que tu fais, mais tu fermes ta gueule.
Oui, oui, exact. Éric Duhem, en 30 secondes, tiens, on va poser une dernière question.
OK, en terminant.
Justin, c'est moi qui mène. Justin Trudeau, oui. Il est en train de perdre une bonne partie de son équipe là, parce que, d'après moi, il regarde les sondages.
Paul Saint-Pierre Plamondon pour recruter des chefs de cabinet qui ont de l'expérience.
Il y en a une couple qui ont parti. Est-ce que toi, tu continues à travailler pour avoir un siège à l'Assemblée nationale?
Je travaille très fort, sans relâche. Moi, je suis convaincu que je vais finir par en convaincre un, puis on va finir par en faire notre entrée à l'Assemblée nationale. C'est important, puis que vous soyez conservateur ou pas, ça n'a aucune importance. On a des idées qui sont différentes. On représente un courant fort au Québec. On a reçu plus d'un demi-million millions de votes, c'est antidémocratique qu'on ne puisse pas être assis là où les décisions se prennent à l'Assemblée nationale.
Youri Chassin, pourquoi il perd son temps avec la coalition
en terminant?
Pourquoi il perd son temps avec la coalition?
Écoute, il faudrait demander la question à lui. Là, c'est pas à moi.
François Legault
ne
le considère pas comme ministrable?
Youri, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. C'est un gars qui a travaillé à l'Institut économique de Montréal, qui, historiquement, avait des positions très similaires aux nôtres. Et c'est quelqu'un que j'ai toujours trouvé très agréable. Ça fait partie des députés de la CAQ, effectivement, qui sont de moins en moins représentatifs des politiques de la CAQ, je te dirais. En terminant, as-tu une autre question?
J'y parles-tu?
En terminant, t'es encore ici dans une demi-heure.
Je parle à tout le monde, mais je n'en parle pas en public. Donc oui, je parle à tout le monde, mais je t'aurai pas de détails sur qui, quand, comment.
Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec, un gros merci d'être passé en studio.
C'est un plaisir.
Bye-bye. Bye. Marceau.